Nous allons poursuivre par notre sujet principal. Nous vous souhaitons la bienvenue au Café Libre, où on vient papoter sur l'actualité du logiciel libre dans un moment convivial, un temps de débat avec notre équipe de libristes de choc, issus d'une rigoureuse sélection pour discuter avec elles et eux et débattre des sujets d'actualité autour du libre et des libertés informatiques. Avec Magali Garnero, G. Pierre Bessac, Emmanuel Charpentier. N'hésitez pas à participer à notre conversation sur le salon web dédié à l'émission, sur le site causecommune.fm, bouton chat, ou sur le site libreavoue.org. C'est Magali qui anime ce sujet principal de Au Café Libre, donc à toi la parole.
J'espère que vous l'avez bien entendu, la sonnette. Hein,
on l'a entendu même au début de l'émission.
Mais pas du tout, j'ai pas du tout osé faire un truc pareil. Ce qui est amusant, c'est qu'il n'y a que Fred et Isabella qui m'appellent Magali. On voit qu'on se fréquente beaucoup. Parce que les autres, ils me connaissent sous Bouquinette. Allez, va pour Bouquinette aujourd'hui. Alors, on a plusieurs sujets. Autour de moi, il y a des gens très très bien. Bon d'accord, il y en a un, je l'ai rencontré vraiment qu'aujourd'hui, mais je suis sûre qu'il est très très bien, sinon je lui couperai la parole. Plusieurs petits sujets, alors je vous l'ai dit rapidement, hein, le Capitole du Libre, les 20 ans d'Inkscape, le SREN, le Cyber Resilient Act, le truc que j'arrive à pas prononcer, IA Act, parce que je prononce à la française, c'est pitoyable, et le IDAS, la copie privée, Sam Altman et OpenAI, et l'avis du 8 novembre 2023. Bon, je vous promets pas qu'on aura le temps de parler de tout ça, mais on va peut-être essayer d'y arriver. Pour commencer, est-ce que je vous laisse vous présenter, les garçons ? Non, non, oh, ils sont timides, c'est mignon. Allez, si, quand même un petit peu.
Si, bah, moi, j'ai pas peur, hein. Donc, écharpe. Moi, je me présente, mais c'est parce que ça me permet de présenter mes projets.
Ah, oui.
L'agenda du libre, donc, je suis le développeur et je maintiens avec un sudiste, Christian Delage, et puis la revue de presse de l'April, hein, que je produis toutes les semaines régulièrement. Donc ça me fait plaisir de prendre la parole et d'essayer d'attirer des nouveaux utilisateurs de l'agenda du libre notamment.
Alors c'est le moment pub, vas-y, au suivant.
Alors moi je vais pas faire ma pub sinon ça va prendre une heure et demie. Donc G, mais vous me connaissez parce que je fais des chroniques sur cette émission. Donc, et d'ailleurs j'en fais une tout à l'heure, hein, petit teaser.
Alors Pierre Bessac, je suis un informaticien jeune. Ça fait quelques années que je traîne mes guêtres dans le milieu de l'informatique, de la micro, d'internet et du libre, voilà. Et accessoirement, je serai aussi, je fais un peu de politique aussi. Je serai candidat en 2024 pour le Parti Pirate aux élections européennes.
Ah, tu fais bien de préciser. Je dis candidat, merde, c'est déjà les élections présidentielles. Alors, je vous propose du coup de commencer notre premier sujet, du coup. Oh, j'adore cette sonnette, c'est monstrueux. Alors, retour sur le Capitole du Libre. Moi, j'y étais, mais vous ?
Oui, c'est ça qui est particulier, c'est que là, tu vas encore parler. si, admets.
Parce qu'il n'y a que toi qui y a été, en fait.
Ah, ben, il n'y a que moi qui y étais. Mais bon, je te laisserai la parole aussi, parce que toi, je sais que tu n'y étais pas et que tu regrettes.
Ouais.
Alors, le Capitole du Libre, c'est un événement à Toulouse qui est sur 2 jours, qui est organisé par une association qui s'appelle Tout Libre, où il y a à peu près 10 événements en même temps, quel que soit le moment de la journée. Donc, vous êtes forcément frustrés, mais vous repartez avec plein de bonnes choses. Il y a plein de gens sympas, il y a un village associatif. Je ne vais pas m'éterniser, parce que le mieux, c'est que vous y allez l'année prochaine. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent rajouter des trucs sur le Capitole du Libre ?
Bah moi j'y étais pas parce que j'avais un autre festival, un truc qui s'appelle Art to Play à Nantes, et c'est pas du tout la même ambiance. Là j'y étais pour faire la promo de mon jeu vidéo, c'est pour ça que je suis allé là plutôt qu'à Capitole. Et c'est plus ambiance centre commercial géant, voilà, avec des gens habillés en Batman et en Dark Vador partout.
Ah, c'est pas
ouais, c'est sympa, mais on a un ami commun qui s'appelle Yann Curvan qui dit qu'il faut dé-Star Warsiser la culture. Bah quand je fais ce genre d'événement, je suis pas loin d'être d'accord avec lui parce que j'en ai ras-le-bol de Star Wars et de Batman. J'ai vu ça tout le week-end, j'ai l'impression que les gens ne sont intéressés que par ça et par Marvel et tout ça. Et du coup, je me dis c'est quand même précieux nous d'avoir des événements qui sont des trucs associatifs, qui sont pas là pour vendre des sabres laser en plastique. Et du coup, ben, Capitole, c'est chouette. J'ai vu que les JDLL avaient un souci de lieu pour l'année prochaine. Et ben, j'espère vraiment que ça va se résoudre parce que j'aimerais pas qu'on perde ce genre d'événement. Je pense que j'ai effectivement pas mal regretté de pas y être allé parce que c'est quand même des événements beaucoup plus sympas que les trucs, que les Comic-Con.
Pendant que t'as la parole, on a vu passer un truc. Un de tes jeux va être porté sur...
Sur Nintendo Switch.
Sur Nintendo Switch, ouais. C'est un peu une consécration, quoi.
Ouais, c'est ça.
Bravo.
C'est
mondial. Donc, et c'est quoi le nom du jeu ?
C'est Superflu Returns, le truc dont je faisais la promo ce week-end, quoi.
Oui, mais c'est encore un truc de super-héros, pour le coup. T'es pile poil dans le domaine.
Mais c'est une parodie,
ça balance sévère.
Non, mais du coup, si tu veux, l'année prochaine, on va à ton événement déguisé en Superflus. On sera super nombreux à être des Superflus. Ça peut être rigolo, non ?
Ça, ce serait la consécration d'avoir des cosplays de Superflu, ouais, tu m'étonnes.
Ok, alors on passe au sujet suivant. Attention les oreilles. Alors, les 20 ans d'Inkscape, ben, DJ, du coup, c'est toi qui parles. Hein.
Ouais, après, je vais me taire, il y a des sujets sérieux où je connais rien. Donc, voilà. Donc, non, bah, Inkscape, c'est un logiciel libre de dessin vectoriel. Donc, c'est. On parle souvent des équivalents privateurs, mais moi, en vrai, je le connais pas. L'équivalent privateur, c'est Illustrator, mais je l'ai jamais utilisé. Je sais pas s'il est bien. Mais je sais qu'Inkscape est super chouette. Et notamment, depuis qu'ils ont sorti leur version 1.0, 1.1, 1.2, je sais pas où ils en sont, ça doit être 1.3, je crois, en ce moment. Ils ont une interface qui est vraiment devenue superbe et très agréable à l'utiliser. Alors moi, malheureusement, il y a eu aussi une régression en termes de perf qui fait que j'ai du mal à l'utiliser parce que j'ai besoin d'avoir des perfs très, très, très efficaces quand je suis avec ma tablette graphique. Donc pour le moment, je reste un peu sur une ancienne version et donc j'attends avec impatience une des prochaines versions où ils vont migrer, attention c'est technique, de GTK 3 à GTK 4 qui apparemment a des meilleures performances. Tu disais qu'il fallait...
Tu
vas pas dire l'acronyme
c'est,
GTK.
C'est des librairies GNOME Toolkit, mais...
GNOME, c'est
un environnement graphique. Hein, donc,
c'est aussi un acronyme.
S'ils en ont fait un, c'est qu'ils l'ont fait backronyme, c'est-à-dire qu'ils ont fait à l'envers. Ils sont partis du mot et ils ont obtenu quelque chose. Mais bon, ça reste que c'est un logiciel vectoriel, donc ouais. Les gens peuvent l'utiliser. Bah, si vous voulez faire des icônes, vous voulez faire des petits logos, des trucs comme ça, c'est hyper sympa. Pour faire des images un peu plus... léchés avec plein de couleurs, des dégradés, des choses comme ça, tu utilises Inkscape aussi?
Ouais, en fait, Inkscape, c'est le seul truc pour lequel c'est vraiment pas adapté, ça va être pour la photo, on va dire. Mmh. Pour tout ça, il faut vraiment du... En libre, on a GIMP ou Krita, par exemple. Mais pour du vectoriel, c'est très très bien. Le vectoriel, pour les gens qui savent pas ce que c'est, en gros, c'est qu'au lieu d'avoir une image qui est composée de pixels, c'est une image qui est composée d'objets mathématiques, on va dire, comme des courbes. C'est-à-dire que vous avez littéralement l'équation d'une courbe. Et l'avantage, c'est que votre image, vous pouvez ensuite l'exporter donc dans un format avec des pixels, mais à la résolution que vous voulez. Et du coup, je vais refaire encore un référence à Superflu Return, je suis désolé, mais j'ai imprimé une grande banderole pour mon événement et j'ai du coup exporté les visuels de Superflu Return en 18 000 fois 12 000 pixels, je crois. Et c'est net, et c'est fabuleux. Donc voilà, vive le vectoriel et vive Inkscape.
C'est quand même sûr que c'est moi Inkscape, je l'utilise pour vectoriser des images. C'est-à-dire, je trouve des images sur Internet et je les mets dans mon Inkscape et je les vectorise et après, je peux travailler sur une image avec une super résolution. Donc, je fais totalement l'inverse de ce que tu viens de dire, mais c'est possible.
Je savais pas que Inkscape pouvait faire ça. Mais effectivement, sur vos sites web, mettez du vectoriel de préférence à des images pixelisées parce que ça permet de zoomer la page, les icônes et tout sans souci.
J'ai le backronyme, c'est Madix qui m'a complété ça. Merci Madix. Donc, c'est GNU Network Object Model Environment. Bon, bah, c'est une blague, hein. C'est un backronyme. Ils ont pris GNOME et ils ont fait le contraire. Sinon, je vois pas comment ils sont partis de l'un pour obtenir l'autre.
Non, mais surtout que je sais que c'est un truc qui est très chaîné parce que t'as GTK, ça fait référence à GIMP, qui fait référence à GNOME, qui fait référence à GNU. Et du coup, quand tu déroules l'acronyme, ça te fait une phrase qui fait trois paragraphes.
Oui, parce que dans GNU Network Object Model Environment, il y a GNU qui lui-même est un acronyme récursif.
Par contre, là, on va perdre le grand public.
Avant l'émission, il y a Emmanuel qui nous expliquait qu'il démonter tous les acronymes, mais là, il est en position difficile quand même.
Bah, c'est chaud, hein. GNU, allez, maintenant vous êtes obligé.
Donc, c'est... Grand public, vous êtes toujours avec nous.
En tout cas, il y a Fred qui n'est pas avec nous, mais qui manifestement nous suit. Alors, on te fait un gros bisou, Fred.
Et bah, je pense que pour Inkscape, on a fait le tour.
On a fait le tour. Alors, on passe au sujet suivant. Alors, SREN. Donc ça, c'est un sujet qu'on aborde depuis pas mal de temps sur l'émission de radio. On a reçu des gens très bien pour en parler. Mais Pierre, tu avais peut-être une petite anecdote rigolote à nous raconter. On est à toi.
Attends, acronyme hein, avant. Alors, SREN, acronyme, ça veut dire, c'est pas l'informatique, mais...
C'est la loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique. C'est une loi d'initiative gouvernementale. Alors, elle a été abondamment démontée dans tous les sens du terme, d'ailleurs, dans une émission précédente. Et c'est une vraie saga, parce qu'il y a eu des choses qui étaient un peu du n'importe quoi, demander du VPN, etc. Enfin, interdire les VPN, pardon. Et là, elle se prend un taquet de l'Union européenne. Mais il y avait tout un volet sur le cloud, et notamment l'obligation d'hébergement des services cloud en France pour certains services liés à la santé, par exemple. Donc il y a eu une polémique là-dessus. Les startups de santé françaises ont dit « Ouh là là, il y a un amendement qui nous arrange pas du tout parce que ça va nous obliger à héberger nos données en France. » Ce que le régulateur a souhaité demander pour des raisons de concurrence, en fait, et pour éviter que tout le monde parte chez les Google, Microsoft, etc., les infrastructures états-uniennes, notamment. Et donc les startups de santé ont râlé parce que ça allait leur mettre des bâtons dans les roues. Sachant que législateur avait envisagé de leur donner l'obligation au 1er janvier 2004. Donc quelque chose, 3 mois pour se retourner, pour changer toute son infrastructure, c'est pas non plus évident. Mais parallèlement, en parlant de ça sur Twitter, quelqu'un m'a notifié une vidéo d'une de ces startups de santé bien connues qui s'occupe de rendez-vous médicaux et qui utilise du libre derrière. Donc une base de données qui s'appelle Postgres, qui est une des meilleures bases de données libres et qui stocke toutes les données sensibles en fait de la startup. Donc il se trouve que c'est hébergé chez un gros fournisseur états-unien, mais en pratique à 95%, c'est quelqu'un qui pourrait, c'est une société qui pourrait très bien réimporter ses données sur moyens propres, ce qu'elle fera peut-être à terme une fois qu'elle aura atteint la masse critique suffisante. Donc en fait, c'est plutôt positif pour le libre, parce que bien que les sociétés au niveau business se battent pour garder les mains libres, au sens littéral, disons, elles peuvent quand même, à terme, d'ici 10 ans, il n'est pas impossible d'imaginer que l'infrastructure soit effectivement hébergée en Union européenne. Donc il y a des choses quand même plutôt sympa qui se profile à l'horizon, sachant que actuellement, si les grosses sociétés comme Google, Apple, Facebook, même Microsoft maintenant avec son cloud, vendent du cloud à tire-larigot, c'est aussi parce que c'est à 99% du logiciel libre. Ils ne pourraient pas faire ça avec des licences privatrices.
Oui, c'est comme Internet. Internet fonctionne grâce au logiciel libre. Et en fait, beaucoup de l'infrastructure mondiale informatique fonctionne grâce et par-dessus du logiciel libre. Des fois, ils en embarquent. Ça cause des problèmes parce qu'on n'est pas toujours au courant et que ils nous revendent des services chers parfois, alors que dessous c'est embarqué du logiciel libre. Ça crée des problèmes. Il y a des sociétés éditrices de ces logiciels, ça existe, et ils se plaignent qu'on leur mange un peu la laine sur le dos. Ça leur fait pas tout à fait plaisir.
Voilà. Donc en résumé, il y a quand même un nuage d'espoir une lueur d'espoir de soleil au milieu du cloud états-unien et de la législation en cours. Voilà. Et sachant que côté SREN, on sait pas du tout à quelle sauce on va être mangé au final, parce que on attend maintenant que l'Union européenne donne son avis sur la loi. Il y a pas mal d'articles, un peu comme la loi Avia précédemment, qui avait été là c'était plutôt en France, c'était le Conseil constitutionnel qui avait tout démonté, mais on sait pas ce qui va rester de la loi SREN à la fin, en fait.
Oui, parce que là, on attend l'avis de la Commission européenne qui nous a déjà tapé sur les doigts. Donc, est-ce que ça passera, passera pas? On ne sait pas. Je précise juste, l'émission de la semaine dernière, c'est l'émission 191. Donc, vous pouvez la retrouver sur libreavoue.org/191. Faudra me l'enlever, cette sonnette, parce que sinon, je vais... Alors, le Cyber Résilient Act. Lequel de vous veut parler?
Je commence peut-être.
Vas-y.
Alors en fait, on peut faire un package entre le Cyber Resilience Act et l'IA Act, pardon. C'est vrai que c'est difficile à dire.
Merci Pierre.
Donc ce sont deux, oui, je t'en prie. Ce sont deux projets actuels au niveau Union européenne, et on voit aussi là le manque d'influence, disons, du libre. Enfin, le libre a une certaine influence, mais n'ayant pas de poids économique mesuré par les moyens classiques, il a du mal à faire prendre en compte son impact sociétal et socio-économique même. Et en fait, il y a des restrictions dans ces lois, de la même manière qu'on peut l'avoir sur des produits de grande consommation, donc des lois sur la sécurité, donc la sécurité des produits logiciels qui vont être distribués, de la même manière que quand vous achetez un rasoir, normalement vous n'êtes pas censé vous faire électrocuter par le rasoir, il y a un certain nombre de réglementations là-dessus. Donc le législateur européen souhaite introduire le même genre de contraintes au niveau des logiciels, donc au niveau des fournisseurs de logiciels, plus des fournisseurs de produits finis, donc avec des obligations d'audit, de conformité, etc., des choses avec beaucoup de consultants et beaucoup souvent du logiciel privé, donc commercial, mais qui n'arrange pas franchement le libre, parce qu'il y a beaucoup de libre qui est évidemment développé par des contributeurs indépendants et à leur compte et sur leur bénévolement, disons, et qui ne sont pas forcément en mesure de répondre aux contraintes associées. Donc là, il y a ça pour le Cyber Resilience Act, donc la sécurité informatique, et il risque d'y avoir ça pour l'IA Act, où on a quand même actuellement quelques fournisseurs privés hégémoniques et beaucoup de libre quand même qui essaye de suivre un modèle libre qu'il faut absolument préserver pour éviter de se retrouver coincé avec des fournisseurs d'intelligence artificielle comme on peut l'avoir actuellement avec les moteurs de recherche ou les GAFAM.
Je te trouve assez modéré sur l'impact sur les logiciels libres, parce que pour moi, si on commence à imposer des règles de garantie du logiciel libre. C'est-à-dire quand je fournis moi du code, je le fournis sans aucune garantie. C'est dans les licences, c'est bien marqué, et ça permet à ce que mon code puisse terminer un peu n'importe où. C'est son but, hein, dans une certaine mesure. Tant qu'on suit la licence, on peut le reprendre. Ce petit bout de code, il peut voyager et vivre un peu partout. Et pour le coup, si on m'impose une garantie, bah ça peut complètement casser ce modèle de partage, de distribution. C'est très lourd, hein, et on peut que espérer qu'ils vont mettre, ils l'ont déjà fait dans d'autres lois, bah des exceptions pour le logiciel libre. Bah, sinon, c'est quasiment mortel comme attitude.
Tout à fait. Alors, l'April et d'autres, tout un tas d'associations qui défendent le libre ont alerté sur les problèmes potentiels. On ne sait pas encore comment ça va se terminer.
Oui, j'avais vu qu'il y avait une lettre ouverte de la Eclipse Foundation et qui a aussi été signée notamment par la Document Foundation. Donc ça, c'est la fondation qui s'occupe de LibreOffice et qui met en garde sur l'effet dissuasif, en fait, parce que ben comme tu dis, toi tu fournis tes logiciels sans garantie, et en fait si tu commences à devoir en fournir, bah il y a un effet qui est assez clair, c'est que ça risque de dissuader des gens de partager du code, en fait. Si on commence à avoir le choix entre partager du code mais risquer des problèmes si il répond pas à tel ou tel truc et ne pas partager de code, bah en fait il y a des gens qui n'en partageront plus. Alors après, apparemment cette histoire de est-ce qu'il y aura des exceptions, ça a l'air d'être un peu le cas d'après ce que j'ai vu, donc ça sera beaucoup plus contraignant pour les grosses boîtes et moins pour les assos, notamment sur le côté il y aura pas d'amende. Mais c'est aussi, ce qui est rigolo, c'est que c'est aussi à cause d'un bête point de vue technique, c'est qu'en fait quand t'as un logiciel qui est développé par plein de monde, bah à qui tu mets l'amende, quoi.
Alors eux, probablement, ils vont vouloir mettre l'amende au vendeur final, c'est l'idée, mais ça reste compliqué parce que bah, les logiciels libres et le commercial, ça a toujours été une vieille histoire. Qu'est-ce qui est commercial, qu'est-ce qui est vendu, qu'est-ce qui n'est pas vendu, à quel moment on intervient? Est-ce que si on profite juste, bah, je sais pas, d'une publicité qui était sur le site web où il y avait le logiciel, on est commercial? Enfin, ça, c'est compliqué.
Ouais, bien sûr.
Alors, dans mes souvenirs, c'est surtout le CNL en France avec Stéphane Farmiger qui suit cette affaire de très très près. Et il me semble qu'effectivement, il y a une question d'intérêt, de si l'entreprise a un intérêt. Alors, je ne sais pas si c'est financier, que financier ou notoriété. Là, effectivement, il risque de se faire taper sur les doigts. Mais que nous, en tant que petit bénévole, enfin, vous, en tant que petit bénévole codeur, vous risqueriez rien. Mais pareil, on attend de voir. C'est pas encore fini.
Et puis, c'est toujours inquiétant quand c'est flou, quoi. Quand t'as un flou comme ça et que tu sais pas où va être le curseur, bah en fait ça veut dire que ça va être un peu selon les envies politiques du moment, hein. Donc c'est dangereux.
Notons une petite chose, je réponds au chat aussi d'une certaine manière. Les logiciels privateurs, donc je sais pas, Windows et les logiciels de Microsoft par exemple, ils ont des garanties. C'est marqué dans les licences, mais il faut les lire en entier ces licences. Hein. C'est mieux que l'œuvre totale de Shakespeare. Ça va vous endormir. Et dans toutes ces clauses, il y a forcément des sous-clauses de sous-clauses qui vont vous dire oui, bien sûr que c'est garanti, mais appelez-nous pour vous plaindre. Le numéro de téléphone, si vous le trouvez, on vous répondra peut-être. Et même si vous le trouvez, de toute façon derrière, il y aura un chemin un peu compliqué. Enfin bref, les garanties que vous pourriez peut-être vous targuer de réclamer, bonne chance pour pouvoir les utiliser.
T'es en train de dire que Microsoft ne serait pas honnête?
Alors, quasiment. ou alors au bout d'un chemin de croix, ou de toute façon...
Hein. Mais je tombe de ma chaise.
Même les garanties sont pas fantastiques, hein, on garantit pas grand-chose en fait. Hein. Au mieux, on te garantit une certaine assistance, mais...
Alors, ils garantissent suffisamment pour que les grands chefs, les patrons, ceux qui ne connaissent pas l'informatique, mais qui ont peur de se faire taper sur les doigts, les spécialistes des parapluies...
Les gens avec
Et ben, ils ont l'impression que ça les arrange. Ils ont l'impression que grâce à ça, grâce à des fournisseurs payés, eh bien, eux-mêmes, leur place sera protégée.
Je suis pas sûr qu'ils aient lu les contrats quand même.
Non,
ils savent qu'ils ont de l'assistance et ils sont quelqu'un sur qui taper, mais.
Non, personne ne lit les contrats à part les avocats.
Après, il y a un dernier truc avant qu'on passe au point suivant, mais il y a un truc qui m'a fait rire aussi, c'est que tu vois aussi où sont les priorités de ce genre de truc. C'est-à-dire que j'ai lu donc. Ils veulent donc notamment forcer donc une, je sais pas comment dire ça, mais c'est de la maintenance, je pense, pendant 5 ans. Enfin voilà, d'obliger les entreprises quand elles diffusent un logiciel à assurer une maintenance de sécurité, en tout cas des pages de sécurité pendant 5 ans. Et c'est précisé, sauf s'il est prévu que le produit comportant des éléments numériques soit utilisé pendant moins de 5 ans, la période de maintien en condition opérationnelle ne doit pas être inférieure à 5 ans. Donc en gros, là, on est typiquement pour faire plaisir aux entreprises genre Apple et compagnie qui font de l'obsolescence programmée à faire des téléphones qui renouvellent tous les ans. Et tout le monde trouve ça normal. Enfin, je veux dire, moi, ça me tue, parce que même d'un pur point de vue environnemental, tout ça, c'est déjà n'importe quoi. Et là, en plus, on leur dit, non mais ok, Mais si vous voulez faire de l'obsolescence programmée, vous serez pas concerné par la loi, ça va.
T'es méchant, ils essayent de s'adapter au public. Ils se sont dit, bon, bah, c'est pas comme les architectes qui ont des garanties aussi, des garanties décennales ou je ne sais plus de les durées. Oui, une maison, il faut garantir qu'elle va tenir debout pendant une durée un peu plus longue que 5 ans. Bah, ils ont dû se dire que pour les logiciels, il y avait bien un truc, quelque chose, rapport. Hein.
Tu mets une garantie décennale sur iOS, je pense que Apple dépose le bilan le lendemain, quoi. Enfin, je veux dire, c'est...
Non, laisse-lui au moins 5 ans. Alors, pendant le Capitole du Libre, j'ai donné une conférence sur les dossiers de la prime. Et comment dire, à la fin de la conférence, j'ai un gentil monsieur qui est venu me voir et qui m'a demandé mon avis sur le EIDAS2. Et là, je l'ai regardé, je me suis dit, mais qu'est-ce que je lui réponds à ce gentil monsieur, parce que je ne sais même pas de quoi il me parle. Donc, j'ai essayé de bifurquer en disant, bah, sûrement que Étienne Gonu, le chargé des dossiers institutionnels de la prime, le connaît. Et là, bah, du coup, je l'ai mis à l'ordre du jour. Donc, bon, alors, qu'est-ce que c'est? Qui peut m'en parler?
Bon, je commence.
Ouais, tu vas commencer et finir, je pense. Alors,
EIDAS 2, c'est la mise à jour de... Alors, je ne sais même plus ce que l'acronyme veut dire, en fait. C'est Electronic European Identity. Non, vas-y, si tu l'as.
Tiens, vas-y, Manu, parce que c'est en anglais. Hein.
Electronic Identification, Authentication and Trust Services.
Waouh.
Authentification, non, il manque un phi.
Authentication en anglais, ça peut marcher. Hein.
Ah bon? Bon,
oui.
Ok.
Alors EIDAS 2, c'est la mise à jour de EIDAS, pas 1 d'ailleurs, la loi précédente qui date de, en gros, 2014. C'est une normalisation des systèmes d'identification en ligne. Alors c'est les choses qu'on utilise pour se connecter à la sécurité sociale, aux impôts, etc., type France Connect. Donc il y a une entité administrative qui dispose de nos informations d'identité et qui est en mesure de certifier à une autre administration qu'on est bien qui on prétend être, sans pour autant balancer toutes les informations qu'ils possèdent sur nous. Ils ne balancent que le minimum, ils ne donnent pas notre adresse mail s'il n'y en a pas besoin, ils ne donnent pas notre téléphone, etc. Donc c'est une protection, et c'est potentiellement une facilitation de l'accès, de l'accessibilité aux services administratifs en ligne. On n'a pas besoin de redonner à chaque nouvelle administration avec laquelle on est en rapport, de redonner tout un tas de paperasses pour s'inscrire. Le problème, c'est qu'évidemment, ça implique des constitutions de fichiers d'État, donc potentiellement accessibles et détournables peut-être par la police, peut-être par d'autres entités.
Jamais on peut avoir confiance dans nos institutions, monsieur.
Jamais nos institutions ne contreviennent à la loi. Il y a eu une histoire sur la police récemment, sur la vidéo surveillance, je
protection
crois. Ouais.
Attention à
la reconnaissance faciale, bref. Pas de gros mots. Donc EIDAS 2 vise à étendre ce genre de procédé pour améliorer un peu. Il y a des possibilités assez intéressantes pour améliorer tout ça, notamment par des applications type application sur téléphone mobile. Mais il y a quelques petits soucis dans EIDAS 2. Alors le problème, c'est que le texte doit être voté le 28 novembre au Parlement européen. Et il a été les eurodéputés n'y ont eu accès que hier, en fait. Il y avait eu des fuites du texte, mais c'était quasiment impossible de l'avoir. On savait qu'il y avait des points d'attention, mais le texte n'a été diffusé que hier soir, en fait. C'est un pavé qui fait 100-150 pages. Je l'ai vu passer, mais j'ai pas encore eu le temps de me plonger dedans.
150 pages, sérieux?
Dans ces eaux-là, ouais.
Mais qui va lire 150 pages?
Les députés qui le votent, mais normalement.
Non. On comprend mieux pourquoi ils votent comme ça. Hein.
Éventuellement les assistants des députés, ouais. Et encore.
Les assistants des députés leur font après un topo, ouais, sur un paragraphe.
Alors ouais, normalement, ouais, quand ils sont spécialistes, ils doivent quand même creuser le sujet. Mais là, il y a notamment à l'article 45 qui a été relevé par un certain nombre d'associations depuis le mois de mai, parce qu'on avait quand même un petit peu des idées de ce qui était dedans. Et il y a plein de choses trappes dans ces petits machins, parce qu'il suffit d'un bout de phrase pour contrevenir aux sécurités élémentaires. Et notamment là, dans ce projet, il y avait un article qui disait que l'État avait le droit d'imposer à nos navigateurs web des certificats. Alors les certificats, ce qu'on appelle les certificats racines, c'est-à-dire les choses qui permettent à un navigateur web de dire que le site auquel vous vous connectez est bien celui qu'il prétend être ou pas. Donc normalement, on met pas n'importe quoi comme un certificat racine, parce que le procédé est tel que une fois qu'on a un certificat racine, l'autorité qui détient ce certificat peut garantir n'importe quoi à n'importe qui.
Et peut prendre le contrôle, si on veut, de notre navigation.
Bah oui, puisqu'elle peut, elle peut dire qu'on est sur Google alors qu'on n'y est pas, par exemple. Donc c'est un petit peu embêtant, enfin c'est même très embêtant au point de vue sécurité. Donc le système est tel que les navigateurs sont en autorité pour décider à qui ils font confiance ou pas. Ils sont un peu les mandataires des utilisateurs pour assurer une navigation en toute confiance. Et là, ce que potentiellement demande une des dispositions de EIDAS, c'est de que les États puissent forcer les navigateurs à mettre des certificats imposés par l'État. Donc, ce qui veut dire que l'État pourrait signer n'importe quoi si ça l'arrange pour écouter quelqu'un ou autre. C'est probablement pas l'intention directe, mais c'est un risque potentiel.
C'est déjà arrivé. En Libye, notamment, il y a eu des cas. Bah, c'est assez loin.
Même en France, c'est même arrivé en France. En fait, il y a une autorité, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui un jour, alors c'était pas méchant, c'était pour un test interne, ils ont signé un certificat Google qui était accepté par votre Firefox, votre navigateur, et donc qui permettait en interne, là où ça a été déployé, de faire croire à un poste quelconque non modifié que l'utilisateur se connectait à Google en sécurité alors que c'était pas le cas. Donc promptement Firefox a retiré le certificat de ses certificats de confiance, mais donc il y a eu une action et la EIDAS potentiellement pourrait empêcher ça, pourrait forcer Firefox à garder ce genre de certificat même après des bavures de ce type. Donc c'est un point d'attention sur EIDAS. On sait pas trop exactement ce qui va être voté au final, mais c'est quelque chose à surveiller.
Alors c'est peut-être la Quadrature qui va s'emparer du dossier parce que ça concernerait de la sécurité, de la vie privée, des fuites de données. Peut-être que le logiciel libre est moins touché directement, même si...
Ça concerne tous les logiciels, effectivement, pas juste le libre, tout à fait. C'est une question de sécurité de logiciel sur Internet, effectivement.
Isabella, tu m'avais fait un signe tout à l'heure, t'as envie de musique ?
Oui, j'ai envie de musique, c'est un plaisir de vous écouter, mais même pour les personnes qui vous écoutent, ça peut être agréable de faire une pause musicale. Donc nous allons écouter un morceau qui s'appelle « Grève angélique » par Captain. On se retrouve dans 4 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune, 93.1.
Perchés sur leurs nuages, quelques anges de passage observaient les humains. Des disputes de ménage, des week-ends à la plage, pas de quoi taper des mains. Puis sur la rue, ils virent un attroupement, un cortège bruyant encadré par des agents. Une foule en délire qui marchait sans faiblir, les anges réfléchirent. Nous aussi on a un patron qui nous fait bosser comme des cons pour une bouchée de pain. Même si le vin coule à flot, on n'a ni arche ni radeau, on n'ira pas très loin. Leur envol et dans une course folle arrivèrent devant Dieu. On se laisse marcher sur les ailes, on en a marre de faire du zèle pour un salaire de démon. Vous avez beau être notre père, on vous jettera des saintes pierres si vous n'usez pas la pétition. On défilera dans le couloir de la mort. Sans état d'âme, on laissera tous les esprits dormir dehors. Le Seigneur étonné arrêta de jardiner et prit sa plus belle voix. Au paradis. Inutile de me faire une scène, j'ai bien compris le problème, mais je suis seul maître ici. Jugement final.
guitare prononcée. Et j'ai une armée d'anges gardiens de la paix. Alors votre recueil de prières peut rester dans son sanctuaire. Et vous hors de ma vie. Les anges se mirent à genoux et crièrent, syndicat, priez pour nous. Jusqu'à perte de voix. D'un geste désinvolte, Dieu les remit à l'apôtre. Sobrement les congédia. Le vent de révolte devint une prise de déception. Les anges rebelles acceptèrent leur situation. Leur morale au plus bas, leur auréole sous le bras. Les anges partis déchus.
Nous venons d'écouter Grève Angélique par Captain, disponible sous licence libre Creative Commons CC BY SA 4.0.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Nous allons poursuivre notre discussion. N'hésitez pas à participer à notre conversation sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton chat, ou sur le site libreavoue.org. On était en fait au Café Libre, en compagnie d'Emmanuel Charpentier, Magali Garnereau, G et Pierre Missac. J'ai dit tous les noms, je suis très fière de moi. Donc c'est Magali qui anime cette discussion. Je t'en prie, Magali.
Avant de vous rendre la parole, les garçons, je voulais faire un grand bisou à Captain, dont on vient d'entendre cette chanson de Grève Angélique. Je me rappelle que c'est celle que j'avais choisie quand on avait fait le parcours libriste avec Isa. Et donc, bah, je suis super contente de l'entendre à nouveau. Alors, le sujet suivant, je l'emmène avec moi ce soir. C'est la copie privée, dernier round avant la possible taxation des ordinateurs. Qui c'est qui se lance ?
Bah moi je peux y aller si tu veux. Donc la copie privée, pour les gens qui savent pas ce que c'est une, alors c'est pas une taxe, c'est une redevance, parce que taxe ça fait un petit peu méchant quand même. Donc c'est sur tous les supports de stockage que vous pouvez avoir, que ce soit un disque dur, des CD, DVD réinscriptibles, des je pense qu'il y a d'autres de nos jours, il y a surtout ça, des clés USB par exemple. Et ben vous avez une petite taxe qui est là pour compenser un manque à gagner soi-disant du fait que vous puissiez copier les œuvres que vous achetez sur d'autres supports. Bon, l'exemple moi qui me bien souvent, c'est quand j'étais petit, donc en voiture, mes parents, ils mettaient des cassettes parce qu'on n'avait pas de lecteur CD dans la voiture, et c'était des cassettes qu'ils avaient copiées de CD qu'ils avaient achetées. Bon, bah ça, typiquement, c'est une copie privée. Alors là où je dis que le soi-disant manque à gagner, c'est que je pense que si c'était pas possible, mes parents se seraient pas amusés à acheter et le CD et la cassette. Je pense qu'ils auraient juste acheté directement la cassette. Mais enfin bon. Donc déjà, bon, le manque à gagner, c'est un voilà. Et le truc, c'est que cette copie, du coup, elle concerne vraiment tout, n'importe quel disque dur. Moi, quand j'étais en thèse, j'avais un disque dur pour parce que j'avais pas mal de données à traiter, thèse informatique. Il y avait une taxe copie privée, il n'y avait aucune œuvre qui a jamais été copiée dessus, mais voilà, taxe copie privée. Et en fait, ce qui est fou, je trouve, avec. Donc là, l'idée, c'est que maintenant, ça va même concerner les ordinateurs. Alors, en gros, ils essaient de l'étendre à tout et n'importe quoi.
Donc, ça ne concernait pas tout au départ, hein.
Oui, non, c'est étendu justement. De plus en plus.
Mais c'est pas ridicule, parce que si ça concerne les ordinateurs, ça va aussi concerner les ordinateurs qui sont réemployés. Là aussi, il y aura une taxe.
Ah, mais absolument, oui.
Ah, oui, donc
on va en parler, ça, on peut en parler des heures, là.
Et en fait le truc, c'est que cette taxe, elle est vraiment ridicule, parce que la copie, enfin moi je suis désolé, mais la vraie copie privée, j'ai l'impression que c'est un truc qui se fait quasiment plus. Enfin voilà, bon, le truc de copier des CD sur cassette, déjà clairement ça se fait plus. Bon, moi j'avoue que ça m'arrive quand j'achète un CD d'un artiste que j'aime bien, de le convertir en format numérique pour l'avoir sur l'ordinateur.
Sur clé USB peut-être.
Oui, mais je pense que je suis une exception. Combien de personnes savent ripper un CD, quoi? Enfin, je veux dire, c'est quand même pas la majorité des gens.
Ça a pas mal disparu coup, avec le streaming, notamment.
Ouais, c'est ça. Ça veut dire quoi, ripper?
Bah,
pour ripper, le grand
du
public,
coup, c'est bah, convertir un CD dans un format numérique type MP3, OGG ou autre. Et donc, ce qui fait que la copie privée, pour moi, c'est quand même un truc qui est devenu assez marginal. Le truc vraiment, en fait, qui est vraiment taxé par ça, c'est la copie pas privée, justement. C'est ce que les ayants droit appellent le piratage, c'est-à-dire le fait de, là, pour le coup, de partager des œuvres avec des gens qui ne les ont pas achetées. Sauf que ça, en fait, c'est illégal. Donc, on peut pas taxer un truc illégal. Donc, moi, soit on taxe la copie privée qui du coup est un truc qui n'existe quasiment plus et c'est débile, donc supprimons cette taxe. Soit on taxe le piratage, mais c'est illégal, donc c'est n'importe quoi. Donc Si vous voulez garder cette taxe pour taxer le piratage, ok, mais foutez-nous la paix sur le piratage. Alors, on arrête avec Adopi. Bah,
alors, en fait, moi, j'aurais une vision encore plus cynique que toi sur la question. C'est que c'est justement parce que le streaming, donc la lecture directe, en fait, sans stockage, se développe et que ça fait disparaître. On achète de moins en moins de clés USB pour ça. On achète plus de cassettes audio, évidemment. On achète plus de cassettes VHS, ni de DVD gravables, ni rien. Et donc, en fait, l'assiette de la copie privée diminue.
Oui.
Donc, les ayants droit qui n'en ont rien à faire de la légitimité du truc,
exactement,
trouvent tous les moyens pour trouver des nouvelles façons de prélever. Alors, en théorie, eux, ils parlent de rémunération, c'est même pas une redevance, oui, oui, mais ça les énerve qu'on parle de redevance. Donc, parlons de redevance.
Parlons de taxes.
Ils arrêtent pas de pinailler là-dessus. Donc, en fait, oui, ils essayent de passer, là, ils ont, lors de la loi Rennes, donc la loi réduction de l'empreinte environnementale du numérique, qui voulait favoriser, l'utilisation de smartphones, enfin, de téléphone, d'ordiphone, c'est le mot français consacré théoriquement, donc voulait favoriser l'utilisation de téléphones recyclés, donc pour évidemment réduire les achats de matériel neuf et enfin valoriser au maximum le matériel. Donc ces téléphones-là n'étaient pas soumis à la redevance.
Pas la deuxième fois.
La deuxième fois, non, parce que théoriquement, c'est sur la durée de vie du matériel. Donc, l'acheteur initial la paye, et puis une fois qu'il cède le téléphone à quelqu'un d'autre, s'il est racheté par quelqu'un d'autre, normalement, c'est déjà payé, on va plus le payer deux
comme
fois.
Comme la TVA. Ouais.
Mais donc, en fait, il y avait une règle qui disait que cette redevance était due sur le premier achat de l'appareil. Mais comme il y avait un flou là-dessus, les ayants droit ont essayé de dire, alors c'était au moment de la loi de la réduction de l'empreinte environnementale du numérique, ont essayé de faire préciser par le législateur que si, ils y avaient droit. Donc ils sont allés voir les boîtes qui revendaient des téléphones recyclés pour leur dire vous nous devez tant. Les boîtes sont allées voir le législateur en disant non, excusez-nous,
c'est
pas possible.
Fois, oui.
Il faut clarifier la loi pour dire clairement que le recyclé, surtout dans le cadre d'une loi sur l'environnement, on va pas plomber le recyclé alors qu'on veut le valoriser. Donc ils sont allés voir le législateur et le législateur a dit oui, vous avez raison, on est d'accord avec vous. Et là-dessus, c'était à l'époque du gouvernement Castex, les ayants droit sont allés voir le ministère de la Culture et Jean Castex pour dire c'est un scandale, nous sommes spoliés, etc. On veut tuer la création, enfin le baratin classique quoi. On veut supprimer la redevance alors que c'était totalement faux. Et ils ont réussi à imposer aux élus aux parlementaires qui faisaient cette loi de clarifier dans l'autre sens en fait, de dire la loi confirme que c'est également dû sur du téléphone recyclé et pas que téléphone hein, ça marche aussi pour les clés USB tout ça. Donc si c'est étendu aux ordinateurs, ça sera certainement également sur les ordinateurs recyclés. Donc en fait les ayants droit voient que l'assiette de la taxe diminue, ils essaient de faire des études plus ou moins bidonnées avec des espèces de sondages mais un peu orientés pour obtenir le meilleur taux d'usage. Il y a tout un tas de machins
J'ai vu même qu'ils refusaient certaines études. Oui. Justement parce que je pense qu'ils savent qu'en vrai la copie privée est en train de s'effondrer et que du coup ça va pas trop aller dans leur sens.
Oui, la Fédération Française des Télécoms avait proposé un moyen plus lucide d'évaluer les usages en la matière et ça a été refusé. Alors il faut savoir que la commission qui vote ça est complètement, c'est open bar, ils peuvent voter absolument ce qu'ils veulent au niveau assiette, enfin à peu près ce qu'ils veulent, parce que la loi est ainsi faite qu'ils ont une latitude complète, en fait, quasiment complète, de ce qu'ils peuvent décider d'imposer. Et en théorie, c'est paritaire, c'est-à-dire qu'il y a la moitié, c'est fabricants de matériel, importateurs et associations de consommateurs qui ont 6 voix dans la commission, et les 6 autres voix, ils sont aux ayants droit. Et je crois que le président peut trancher en cas d'égalité. Mais en fait, il y a une association de consommateurs qui vote du côté des ayants droit. Donc en fait, ça passe tout ce que les ayants droit veulent passe.
Les ayants droit sont des consommateurs comme les autres.
Oui, c'est ça. C'est en toute indépendance.
Et notons, on pose la question sur le chat, les payeurs de l'assiette, ce sont les consommateurs, les acheteurs de matériel. Vous achetez un appareil photo numérique qui contient un petit support de stockage pour stocker les photos, et bien vous payez en fonction de cette taille, et il me semble que les montants ne sont pas anodins, oui. Notamment parce que les espaces de stockage ont beaucoup augmenté et que les taxes, cette taxe était basée sur l'espace lui-même. Oui. Donc avec l'augmentation des volumes, ça n'a fait que grossir les montants dus. Et tout ça, ça peut avoir une conséquence, c'est que l'assiette augmente, l'assiette se barre, en stockage dans les nuages et à l'étranger, là où on n'a pas justement cette perception de taxe. Ça peut aider que les États-Unis ou des pays pays concurrents à la France. C'est un peu idiot. C'est un peu la même chose que quand on faisait des téléchargements en peer-to-peer. Le peer-to-peer, alors c'est pas peer, P-I-R-E, c'est de pair à pair. Ce téléchargement de pair à pair, c'était une technique très très efficace pour télécharger des contenus à plusieurs pour s'entraider les uns les autres. Donc c'était vraiment très très efficace et plutôt éthique, je dirais. Mais les législateurs et surtout les ayants droit se sont plaints et ils ont cassé ce modèle. Et aujourd'hui, on fait du modèle de... Alors, ce qu'on appelle le streaming, donc de la vue en flux, on télécharge en fait localement, mais ça se voit à peine. Et effectivement, ils ont cassé un modèle qui était plutôt vertueux techniquement et humainement, parce que tout simplement, ils avaient un appât au gain qui était intense, bien trop intense, pour supporter ces mécanismes plutôt positifs.
Alors, il est question également d'étendre ce truc-là au, comment on appelle ça, quand tu fais pause sur ta télévision pour
parce replay.
Que tu vas aux toilettes
diffusion décalée ou je sais pas
quoi. L'espèce de pause qui permet d'enregistrer 2 minutes d'émission pour que tu puisses ne rien rater lorsque tu vas faire ta cuisine ou lorsque tu vas aux toilettes. Donc ils veulent également faire payer des droits là-dessus. Donc et également alors ce qu'il faut savoir c'est que seuls les consommateurs, puisque a priori les entreprises vont pas faire de copies privées ou très très peu, seuls les consommateurs sont assujettis à cette taxe. Mais les professionnels qui achètent des clés USB ou autres dans le commerce grand public vont la payer également et peuvent se demander un remboursement. En pratique, c'est tellement compliqué que personne ne le fait. Donc il y a des surtaxations qui sont dues, qui sont versées et qui sont jamais remboursées. Et même il y a eu récemment, alors pour toutes ces informations, je pense qu'à peu près il y a un journaliste français qui s'intéresse à ça, c'est Marc Ress de l'Informer.
Ah, Marc, pardon.
À peu près 100% des informations qu'on a données là sont à part le côté législatif qui est public, c'est des scoops de Marc qui suit ça de très près. Donc je vous invite à regarder l'Informé parce que c'est là-dessus qu'il y a le plus de l'informé.com, c'est là-dessus qu'on est un peu au courant de l'actualité. Donc récemment, il a été révélé que, donc je crois que c'est Philippe Platon, le député, qui a demandé ça en question à l'Assemblée nationale. Il a demandé au ministère de la Culture si l'UGAP, qui est une énorme centrale d'achat pour le public, pour les administrations publiques, se faisait rembourser sur tous les matériels soumis à la taxe qu'elle achète pour ses clients, si elle faisait un remboursement. Le ministère de la Culture a répondu oui, et en fait, il s'avère que non. L'UGAP verse, je sais pas, quelques dizaines beaucoup de millions trop. D'euros qui sont pas remboursés et qui devraient l'être par les ayants droit. Voilà. Donc il y a tout un système soigneusement mis en place pour nous taxer de tous les côtés là-dessus, même dans des cas où on devrait pas l'être.
Dire qu'on aurait pu aller sur la licence globale où là, ok, ils pouvaient taxer tout pareil, récupérer beaucoup, beaucoup d'argent, parce que potentiellement il y avait quelque chose de considérable. La licence globale, il y avait plein de mécanismes, mais en gros, on payait tous les citoyens pour un accès illimité à la culture et sans contrôle précis, peut-être éventuellement des sondages et encore, mais les ayants droit n'étaient pas contents parce que je pense qu'ils ne contrôlaient plus la diffusion de ce qu'ils peuvent contrôler aujourd'hui et donc ça les embêtait un petit peu. Donc à la place,
ça mettait en cause toute leur X nombre de sociétés, alors les SPRD, les sociétés de perception et de redistribution des droits, donc il y a la SACEM, il y a en matière de musique, il y a la SACEM céder en matière d'œuvres audiovisuelles. Alors moi j'étais pas forcément ultra pour la licence globale pour ma part parce que j'avais peur que ça mène à la création d'une sorte de super SACEM encore plus puissante et encore plus indéboulonnable. Il pense qu'il y avait un risque de ce côté-là.
Licence globale socialisée évidemment quoi. Je veux dire on va pas refaire une SACEM c'est sûr.
Alors d'ailleurs Gigi, toi t'es dans une société d'auteur ?
Pas du tout non.
Comment ça ?
Ah non, mais moi, je fais tout de travers, de toute façon. Je veux dire, mes œuvres sont sous licence libre, c'est n'importe quoi. Enfin, voilà.
Vraiment.
Après, je pense pas qu'on aurait pu faire pire que la SACEM, parce que je me rappelle que la SACEM, en tout cas, la dernière fois, essaye de pas mourir.
Je suis désolé.
La dernière fois que j'avais regardé les chiffres, 30% de ce qu'ils récoltaient allait pour leur fonctionnement à eux. Et bien sûr, c'était surtout les petits musiciens qui touchaient pas une thune, alors que les gros, voilà.
En fait, c'est génial. La SACEM, c'est l'inverse de l'impôt. L'impôt, c'est un truc où tu prends beaucoup aux riches et tu fais en sorte que ce soit redistributif pour que les pauvres aient accès à plus d'aide. La SACEM, c'est le contraire. Tu prends à tout le monde et en fait, t'en donnes beaucoup plus aux gros artistes et tu donnes quasiment rien à ceux qui font pas de demandes.
À ce titre, parlant de licence libre, il y a un truc absolument hallucinant dans cette histoire, c'est une chaîne de magasins d'ameublement ou de moquettes, je ne sais plus.
Ça m'a clou, évidemment.
Je sais pas si c'était j'ai oublié, mais quelque chose comme ça, avait décidé de diffuser dans ce magasin une radio, des contenus sur licence libre. pour éviter justement d'avoir à reverser à la SACEM. La SACEM les a attaqués pour leur demander de reverser la taxe SACEM sur ce genre de choses, comme ils demandent aux coiffeurs ou tous les magasins.
Et en fait, ils ne contribuaient pas à la création artistique.
Et en fait, le magasin a perdu, donc le magasin reverse maintenant à la SACEM sur des contenus libres et donc des redevances qui repartent aux contenus non libres, en fait. C'est hallucinant.
Et qui seront jamais donnés aux artistes concernés.
Ben, ça sera jamais donné aux artistes concernés qui ont accepté de ne pas percevoir de droits, mais ça va être donné au prorata des gros ayants droit, donc les héritiers de Johnny Hallyday, des gens comme ça.
Voilà. Ceux qui n'en ont pas besoin, en fait. Ouais.
Oh, c'est fabuleux.
Alors, je ne vais pas suivre l'ordre, je vais sauter. Je vais passer directement à la parution le 1er décembre de Ada Zagman, un conte sur les logiciels, le skateboard et la glace à la framboise, parce que je trouve que je ne parle pas assez dans cette émission et que je suis sûre qu'aucun de vous n'a lu cet album jeunesse. Je regarde autour de moi, aucun de vous.
Il a été envoyé, j'ai regardé les trois premières pages, ça avait l'air sympa.
C'est très sympa. Alors franchement, c'est très sympa. C'est un album qui a été créé par un Allemand, Matthias, qui est le président de la FSFE, et qui a été avec une illustratrice extraordinaire.
La FSFE.
Free Software Foundation Europe.
Merci.
Mais de rien, je suis heureuse de te faire plaisir à toi et pas à Écharpe. Bref, donc c'est un album qui raconte l'histoire d'une petite fille qui vit dans un quartier pauvre et qui un jour va avoir accès à l'informatique parce qu'il y a Monsieur Zangeman, qui a mis des ordinateurs accessibles à tout le monde et puis des objets connectés, des skateboards aussi, des machines à distribution de glace et puis bien sûr plein de choses. Sauf que plus ça va, plus Monsieur Zangeman, il va pas être content de ce que les gens font de son matériel. Donc, il veut que tout le monde écoute la musique que lui, il aime, que tout le monde mange des glaces au parfum qu'il aime. Et en fait, il va fermer les libertés des gens à qui il a offert tout ce matériel informatique gratuitement. Sauf que Ada, elle n'est pas du tout d'accord et elle va commencer à bidouiller et à hacker le système pour pouvoir avoir la musique qu'on veut sur son skateboard, le parfum des glaces qu'on veut. En gros, c'est des enfants qui libèrent les adultes et j'ai trouvé cet album super. On a une chance incroyable en France, c'est que grâce à plusieurs personnes, des professeurs d'allemand, mais aussi, Alexis Kaufmann du ministère de l'Éducation, cet album a été traduit et on a une version française papier qui est diffusée par CF Éditions et qui sortira le 1er décembre.
Alors moi j'ai une question pour toi parce que j'imagine que Ada c'est une référence à Ada Lovelace,
oui,
qui est donc connue comme étant la première programmeuse de l'histoire au 19e siècle. Est-ce que tu sais si Zangeman c'est une référence à quelqu'un d'autre du coup?
Alors oui, mais je pourrais plus te l'expliquer. Okay. Mais il me semble qu'on a eu la référence, mais par quelqu'un qui l'écrivait en anglais. C'est peut-être pour ça que je m'en souviens pas. Mais effectivement, ça veut dire quelque chose. Alors, les gens qui nous écoutent, on vous aime. Donc, on compte sur vous pour que vous nous donniez l'explication avant la fin de l'émission. Ou au moins avant la fin de ce petit sujet-là. À savoir qu'il me semble que le 30 novembre, il y a une petite soirée de lancement qui est organisée dans les éditions, enfin, dans les locaux de CF Éditions. Je crois que c'est dans Paris 20e. Donc, si vous voulez en savoir plus, allez sur leur site internet https://cfeditions.com/ada/. Alors, je regarde le chat pour savoir si on a eu la définition. Non, toujours pas. Bon, du coup, c'est un petit album qui coûte pas super cher, qui est une super bonne idée à s'offrir à Noël. En plus, les dessins sont vraiment trop mignons. Bon, d'accord, je suis pas objective, mais franchement, non, si, c'est trop mignon. Je suis sûre que tout le monde sera d'accord avec moi. Donc, si vous dites j'ai pas d'enfant, peut-être qu'il y a des enfants autour de vous qui seront ravis de le feuilleter. Et même au niveau des adultes, c'est
sympa. T'as eu droit à le voir en avance
Alors, en fait, il existe en format PDF.
D'accord.
Et effectivement, j'ai eu le droit de le voir en avance. Et la traduction avait déjà été faite. Donc, avant que le livre sorte en format papier, ouais, j'ai eu cette chance-là. Peut-être parce que je suis libraire. Peut-être parce que je suis présidente de l'April. On ne sait pas. En tout cas, et j'ai promis même à l'auteur de faire une petite chronique dessus, donc je suis hyper contente d'en parler aujourd'hui parce que je tiens une promesse et ça vaut vraiment le coup.
Et il est sous licence libre ?
Alors oui, il est sous licence libre.
Ok, oui, non, mais du coup, le PDF est librement partageable par exemple.
Alors je sais pas pour la version française,
okay.
Mais pour tout le reste, oui. Okay. Mais je pense que si, pour la version française, il me semble que si. J'ai cru voir passer quelque chose. Alors, avis du 8 novembre 2023 de la CSNP, la Commission supérieure du numérique et des postes. Est-ce que l'un de vous veut en parler ? Parce que j'ai l'impression que c'est pas le sujet le plus...
Non, ça a l'air bien. Si j'ai un truc à en dire, c'est que bah voilà, c'est un avis qui est favorable au commun numérique, donc qui est fait partie des choses qu'on défend en tout cas à l'April. Donc voilà, j'ai noté un truc rigolo. Il parle de soutenir les partenariats publics communs. Je trouve ça intéressant comme terme, parce qu'on a tellement l'habitude des partenariats publics privés qui sont quand même plutôt de la daube en général. Il faut être honnête. Partenariat public commun, je trouve que c'est une jolie expression. Donc voilà, j'ai pas énormément de choses à en dire, à part que ça a l'air d'être quelque chose qui va dans la bonne direction, donc c'est toujours bon à prendre.
Moi, la seule chose qui m'a embêté, c'est le modèle souverain. Chaque fois que j'ai le modèle souverain, enfin, le mot souverain qui apparaît, j'ai peur, parce que je me demande qu'est-ce qu'ils vont faire, quelles entreprises vont se créer là-dessus pour récupérer toute la thune et la garder, et du coup, ça va échouer. Mais bon, on va être positif.
Je suis d'accord avec toi. C'est devenu un mot tellement fourre-tout qu'il y a tout et son contraire. Donc, j'essaie de distinguer le souverain d'État et le souverain personnel, parce que ils sont pas forcément conciliés quand il s'agit de surveillance, par exemple.
Voilà. Et puis moi, des communs, pour moi, forcément, c'est ouvert à tous, c'est disponible à tous. Donc, dès qu'ils veulent légiférer dessus, j'ai peur que ce ne soit plus des communs. Et du coup, si c'est des communs, est-ce que c'est des communs qui appartiendront à l'État ou est-ce que, voilà, j'ai toujours peur un peu de ça.
Ça peut être des lois de protection des communs. Donc, ça peut être légiféré de manière positive. Moi, ça me semble possible. Pas de souci.
Donc, on a hâte de voir ça. Même si le rapport, moi j'avoue, je ne l'ai pas lu, mais j'ai toujours peur quand je vois des rapports. Voilà. Alors, on me fait signe qu'il nous reste 7 minutes, donc je vous propose de faire le dernier sujet. Alors, c'est un sujet à troll. C'est un sujet qui n'était pas totalement prévu en début de semaine, mais pendant le Capitole de Livre, j'étais assis à côté de Borsmeyer, que vous devez peut-être tous connaître, et chercher des infos qu'il ne trouvait pas, et il s'énervait à ne pas en trouver, et je ne savais pas de quoi il parlait. Et ce matin, il y a Écharpe à côté de moi qui m'en parle, et je me dis... On est obligé de rajouter ça, quoi. Vraiment obligé. Allez, vas-y, échappe.
Ben, moi, c'est un sujet qui m'amuse énormément parce que ben, y a rien de tel que de piétiner un petit peu les attendus, on va dire. Et effectivement, depuis un an, on va dire que l'intelligence artificielle, et si quelqu'un arrive à définir intelligence, il m'appelle, je suis preneur, mais je suis pas sûr que l'intelligence artificielle, ça existe, et la naturelle encore moins. Mais en tout cas, on en parle beaucoup depuis plus d'un an, et dans une certaine mesure, ça a sauvé les capitalisations boursières des grosses boîtes, Microsoft, Google, Facebook. Il y a un an, leur capitalisation boursière était en train de descendre de manière assez drastique et ils ont réussi à se rebooster grâce à tout ce buzz phénoménal autour de ChatGPT. Et ce ChatGPT, derrière, il y a une petite... où il y avait une petite société, OpenAI, société américaine, dirigée par un certain Sam Altman. Et cette société OpenAI, elle avait commencé assez bien, d'où son nom d'ailleurs, Open. Open, oui, c'était une référence au logiciel libre, à l'open source, une sorte de déclinaison sans les idées éthiques, mais bon, qui en est quand même très proche. Et donc OpenAI, leur promesse, c'était de faire une intelligence artificielle grand public, qui puisse vraiment aborder plein de choses et qui soit libre.
Bon, open source, en tout cas.
Oui, honnêtement, techniquement, ça revient à peu près à la même chose. On est d'accord que l'éthique n'est pas là. Ouais. C'est pas en tout cas l'idée de l'éthique, mais l'implémentation, le code, quand il est open ou quand il est libre, ça revient un peu au même. Pour le coup, ils ont un peu renié leurs promesses, sont revenus en arrière, et certainement que, d'autant plus maintenant, et ils ont obtenu tellement de financements, notamment de Microsoft, des milliards, que il est plus du tout question de libérer le code source au nom de la sécurité de la société humaine, parce que n'oublions pas, y compris pour OpenAI, l'intelligence artificielle comporte certains dangers. Et donc, il semblerait, depuis quelques jours, depuis moins d'une semaine...
Tu veux dire qu'avant, c'était soi-disant open, accessible à tous, et que bizarrement, une fois qu'il y a eu du fric en jeu, ça s'est un peu fermé.
Alors, c'est un bon résumé. Ils ont trouvé ça tellement juteux
Ils l'ont jamais vraiment diffusé. Donc, ils ont promis de le diffuser en libre, mais c'était qu'une promesse.
Ça n'engage que ceux qui
sur
croient.
Sur la création de la société, l'idée, c'était quand même de garder ça dans le domaine public, en libre ou open source, et dans l'intérêt commun. C'était créé pour cette raison-là. Et il y a des choses qu'ils ont diffusées, d'ailleurs, de manière libre, un truc qui s'appelle Whisper, qui permet de transcrire une émission de radio ou un podcast ou autre en audio vers du texte, des sous-titres ou autre. Donc c'est vachement pratique, ça marche plutôt pas mal.
En plus de ça, OpenAI, donc c'est un montage de plusieurs structures, et la structure qui est tout en haut, c'est une structure à non-profit, donc non commerciale. Et bah, aux États-Unis, c'est assez particulier, c'est pas tout à fait une association, mais ça comporte des problèmes parce qu'ils ont monté d'autres structures en dessous qui, elles, sont commerciales. Ils ont des employés, des centaines d'employés. Donc Sam Altman, qui n'est pas un technicien à la base, c'est plutôt un investisseur. C'est un gars qui gère des fonds d'investissement et qui a pris la direction de l'entreprise.
Il est aussi créateur de... Il a travaillé dans un incubateur de start-up voilà. bien connu, celui de Paul Graham, Y Combinator.
Et donc c'est
il,
ça.
Donc il s'est le monté gars, des il, boîtes, voilà.
Il était placé au bon endroit au bon moment. Ça aide, hein. Il n'y a rien de tel pour dénicher ce qui va démarrer. Eh bien, il semblerait qu'il s'est mis à dos le conseil d'administration d'OpenAI. Et là, il s'est fait virer il y a quelques jours.
Il s'est fait virer de sa propre boîte.
Alors, c'est pas sa boîte dans le sens où il est fondateur, il est considéré comme fondateur, mais il était que CEO, donc Chief Executive Officer, le directeur exécutif. Et ben, directeur exécutif, on n'est pas le dieu à bord, on n'est pas le seul maître à bord, on va dire. Il y a un conseil d'administration, le conseil d'administration, ils sont pas très nombreux, je crois qu'ils sont quatre, et ils ont décidé que le gars n'avait pas été tout à fait aussi honnête qu'il le demandait, et donc ils l'ont viré. Et ça fait des remous, mais quelque chose de phénoménal dans la sphère internet, dans la sphère économique, parce que bah, OpenAI, c'était un petit peu la pépite qu'on n'avait pas vu venir et qui avait grossi comme pas possible depuis un an.
Et ça s'est passé en 3 jours. Il a été viré vendredi. Samedi, ils ont dit qu'ils allaient peut-être le reprendre. Samedi ou dimanche, il a dit qu'il partait chez Microsoft. Et hier, il disait qu'il ne savait plus trop, en fait. Voilà. Donc c'est pas terminé, on ne sait pas.
Il y a eu aussi des employés d'OpenAI qui suivent le gars, donc ils ont décidé eux aussi de démissionner. Ils vont aller avec lui chez Microsoft. Il y a eu une lettre de plein d'employés, donc des centaines d'employés, qui ont dit qu'eux, ils étaient en train d'y réfléchir, mais que vraisemblablement, si le conseil d'administration ne se désistait pas, eh bien ils allaient partir eux aussi. Et on ne sait pas trop où ça va. C'est peut-être simplement une manière pour Microsoft de racheter sans coût énorme l'équipe, parce qu'après tout, c'est les compétences humaines qui sont importantes avant le code, et c'est peut-être une manière de récupérer ce qui était une fondation, quelque chose de non commercial, et d'en faire quelque chose qui vaut des milliards. Donc là, c'est des affaires d'ultra riches. Je pense que les complots et les théories en tout genre...
Ça vaut déjà des milliards de toute façon,
parce
que les potentiels sont indiscutables.
Bon, on va s'arrêter sur le drama du week-end, hein, et puis on va laisser la parole à Isabella, puisqu'elle a plein de choses à nous raconter.
Merci beaucoup pour ce café libre à nos invités.